Bonjour Marie-Ange.
Bonjour, Clapton aujourd'hui.
Yes, on va commencer par shooter le shérif.
Allez, on y va.
C'est parti. Bien sûr, c'était Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Si vous ne voyez pas le shérif, bah regardez dans le rétro, il est derrière.
Clapton, oui, en fait, il a une enfance assez particulière. Il est né à Ripley, C'est le fils d'un soldat canadien et d'une anglaise. Son père, lui, part combattre en Europe, peu après sa naissance en fait. Et il revient ensuite au Canada, mais sa mère, elle n'a alors que 16 ans. Et elle est franchement trop jeune pour s'occuper d'Eric Clapton. Le jeune Clapton est donc confié à ses grands-parents maternels, dont le nom Clap est à l'origine de la fausse rumeur, en fait, selon laquelle le véritable nom du guitariste serait Clap. Non, c'est pas vrai du tout. Eric Clapton sera plus tard définitivement abandonné par sa mère, parti à son tour au Canada, en fait, pour rejoindre un autre soldat, pas son père. L'histoire de la naissance de Clapton reste longtemps un secret de famille, et l'enfant n'apprendra que vers l'âge de 9 ans que ceux qu'il croyait ses parents ne l'étaient pas, et que sa prétendue grande sœur était sa mère. Donc le choc pour Eric Clapton est franchement terrible. C'est une enfance qui ne se passe pas sans accroc. Il va avouer plus tard qu'il était franchement sale gosse, pas attentif en classe du tout. Il a même failli...
On en a plein en France comme ça.
Ouais, mais alors ce qu'il a failli faire, et m'a beaucoup fait sourire, c'est qu'il voulait abandonner l'apprentissage de la guitare. Il trouvait ça vraiment besogneux, trop difficile. Il est devenu après postier pour gagner un peu de thunes. Il va intégrer une classe de design à l'école d'art de Kingston. Mais finalement, comme il a des résultats vraiment, vraiment médiocres, il va être tout simplement renvoyé.
Il est renvoyé. Bon, tant pis pour lui.
On va quand même nous en envoyer un bout quand même.
Allez, After Midnight. Some action, we gon' get some satisfaction. We gon' find out what it is all about. What it is all about. What it is all about. Oh, after midnight, we gon' lay it all hang down. After midnight, after midnight, after midnight, we gon' shake your tambourine. After midnight, after midnight, after midnight, so go be peaches and talk and suspicion. We gon' give an exhibition. We gon' find out what it is all about. What it is all about. What it is all about. Ah! After midnight, we gon' let it all hang. Vous êtes sur Radio Campus et on vient d'écouter After Midnight, un morceau de 70.
Adolescence de Clapton, donc franchement médiocre, envie de tout balancer. Trop difficile, l'adolescence quoi. Eric Clapton puis son inspiration musicale, parce qu'il est finalement parvenu à jouer un peu de guitare. Il va puiser son inspiration donc dans le blues américain. Buddy Waters, Elmore James et surtout Robert Johnson, le légendaire bluesman en fait du Mississippi. Il est surnommé par ses amis Eric the Mod, en référence à ses vêtements qui rappellent le mouvement Mods. Il commence vers 62 à fréquenter les clubs de musiciens comme le Healing Club à Londres. Et c'est dans ce club justement qu'il va rencontrer les Rolling Stones, qui démarrent aussi. Il va même accompagner les Stones occasionnellement, tout simplement comme chanteur. Peu confiant à l'époque envers ses talents de guitariste, il se mettait évidemment en cause. Il va déclarer « Ouais, j'en fais un peu, j'ai bossé quelques trucs de blues depuis un moment, mais c'est pas très sérieux. » Et c'est pourtant un apprentissage par cœur en fait, d'un album de Chuck Berry qui va lui permettre finalement d'intégrer en 63 son premier groupe. On verra, il va avoir beaucoup de groupes. Le premier donc, les Roosters. Il joue avec eux pendant quelques mois. Mais Clapton, bon, il a déjà acquis une certaine notoriété en tant que guitariste. Ça y est, ça va commencer. Il est embauché dans les Yardbirds, évidemment, qui seront son véritable premier groupe professionnel. Fini le bénévolat, fini les amateurs.
Il commence à rentrer un petit peu de thunes.
Et voilà, la thune arrive. 63-65, donc, c'est la période Yardbirds. À l'arrivée de Clapton, ce groupe commence à bien décoller. Par l'arrivée donc de la nouvelle recrue, un petit groupe de rock and roll, comme tant d'autres à l'époque, très influencé par le blues aussi. Il ne joue encore aucune composition personnelle. Hein. Ils vont même devancer les Stones et deviennent un groupe culte pour les jeunes Anglais branchés fans de blues à l'époque. Hein. Clapton de son côté, ça y est, a d'autres inspirations. C'est un gars très inspiré finalement. Il va créer peu à peu son propre style, sa façon de jouer. Il va synthétiser de manière, on va dire, révolutionnaire les influences B.B. King, Buddy Gay, mais aussi surtout une certaine façon de s'habiller. C'est aussi à l'époque hein, le style Clapton, c'est pas seulement la guitare, c'est aussi les fringues.
Et avant de parler de fringues et puis autre mitaine, Knocking on Heaven's Door. Take this badge over me.
Les radios libres sont en lutte. À l'occasion du passage à la radio numérique terrestre, qui met en danger toutes les radios associatives non commerciales, une mobilisation se monte pour expliquer les enjeux et faire valoir nos revendications. Vous trouverez toutes les infos sur le site radiosenlutte.free.fr.
Et puis après tout, on en a vu d'autres.
Eh oui. Par contre, on va continuer avec Eric Clapton, puisque tu avais déjà bien commencé une partie de sa biographie.
La scène anglaise, ça y est, s'éprend finalement de cette figure qui devient emblématique, Clapton, qui est surnommé assez rapidement aussi Slow Hands, une référence évidemment ironique hein, quant à la vitesse extraordinaire à laquelle il joue. Enfin, c'est évidemment, il n'y avait pas encore eu Jimi Hendrix pour l'instant, à cette époque-là, il était la référence de la vitesse du jeu de guitare. En mai 65, le premier vrai succès du groupe, For Your Love, coïncide avec le départ du guitariste. Finalement, il est mal à l'aise à cause de cette chanson trop commerciale, For Your Love, hein, que tout le monde connaît. À cette époque, Clapton est encore un fanatique du blues qu'il appellera longtemps le blues authentique. Donc, tout aspect commercial, il le fuit. Il considère ce For Your Love comme une trahison de jouer autre chose que des reprises de grands bluesmen. Recommandant le jeune Jimmy Page, n'est-ce pas, à ses collègues, eh bien Clapton part pour rejoindre le Blues Breakers avec un certain John Mayall. Donc on passe à la période 65-66, John Mayall, évidemment, qui devient acolyte. Bon, il est parti se reposer à Oxford, chez un copain, lui, l'ancien guitariste des Roosters, justement, et Clapton ne va pas rester très longtemps inactif. Après son départ des Yardbirds, John Mayall lui propose de rejoindre son propre groupe. Et à l'époque, le groupe est déjà une référence de rhythm and blues britannique. Clapton accepte la proposition. Il va échanger sa Fender, bien sûr, contre une Gibson. Pour un son plus authentique et puissant, Clapton va jouer avec passion. Et là, il va franchement asseoir sa réputation de guitariste prodige. Il est lassé, oui, par la routine des concerts dans les nightclubs. Il abandonne en août 65 les Blues Breakers déjà pour se joindre à un autre groupe supposé parcourir le monde. En tout cas, c'était leur objectif, les Glands.
Les Glands.
Ah, y a pas mieux. En tout cas, ils n'ont pas trouvé autre chose.
Je ne veux rien rajouter là-dessus.
Voilà.
Wonderful Tonight.
I say yes, khakis. She helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight.
Vous êtes toujours sur le 106,6, nous continuons avec Eric Clapton.
Clapton qui en a donc marre des nightclubs et finalement il a envie de parcourir le monde. La chance fait qu'il rencontre effectivement The Clans. L'intention première de ce groupe, des musiciens voyageurs en fait, c'est comme ça qu'il s'appelait, mais était de parcourir le monde en effet en autobus à 2 étages, en jouant un peu partout. C'était l'idée de départ. Une épopée qui va s'achever rapidement en Grèce. Ils vont revenir de ce pays sans un sou, après avoir eu un accident de la route et s'être presque fait kidnapper à Athènes. En fait. Donc Clapton va reprendre, dès son retour, sa place dans ce groupe sédentaire, Blues Breakers. Son escapade avec Glanz n'a pas entamé sa réputation de joueur prodige. Et c'est vrai qu'il devient peu à peu une véritable idole. Il gagne un nouveau surnom. Sur les palissades et les métros de Londres, on voit fleurir l'inscription « Clapton is God ». Rien que ça. Un nouveau statut difficile à assumer pour un jeune guitariste. 66, Clapton, Mayall et Blues Breakers enregistrent l'album « John Mayall's ». Ah, il faut prendre son souffle. John Mayall's Blues Breaker with Eric Clapton. Tu veux le faire ?
Non, je ne peux pas.
C'est terrible.
Je suis encore fâché avec des gens.
Voilà. Donc considéré encore aujourd'hui comme, c'est vrai, un monument du British Blues. Le disque connaît un grand succès, mais son titre, c'est vrai, ambigu, ne satisfait ni les membres du Blues Breakers, ni Clapton, qui trouve que ce nom, selon lui, son nom se voit moins que celui de John Mayall. Quand l'album sort, Clapton a déjà quitté le groupe. Il aspire toujours à autre chose, c'est vraiment quelqu'un qui va toujours aller de l'avant. Il vient de former, avec Jack Bruce et Ginger Baker, un autre super groupe, qui deviendra bientôt Cream. Je l'entendais d'ailleurs ce matin, je ne savais pas, avant de préparer l'émission pour vous, qu'effectivement Clapton avait fait partie de Cream. Cream, c'est donc une autre période, on va dire toujours aussi courte, de 2 ans, formée par 3 musiciens déjà très célèbres, Clapton, Ginger Baker et Jack Bruce. Cream, et aussi pour Clapton, l'occasion de développer sa technique, encore un peu plus, mais sa technique de chant cette fois, ses talents de guitariste et d'auteur de chansons aussi. Attendu comme un groupe de blues, mais cette fois pur et dur, vraiment comme Clapton le souhaitait, le groupe s'oriente pourtant, dès son premier album, vers une musique pop autant inspirée par le psychédélique que par le blues. Donc c'est un terrain fertile. Et Clapton va continuer de créer son propre style de guitare plus expérimental. Hein. Les concerts du groupe seront l'occasion de très longues impros. Un volume délirant pour l'époque, et Clapton doit assurer à la fois la rythmique, les solos. Il est forcé de se surpasser.
Oui, mais en parlant d'Ice Cream, on va passer par contre à autre chose. C'est Laila, qui dure quand même 7 minutes. Hein. C'est quand même un morceau des années 70.
À tout à l'heure.
Bonne sieste. Vous êtes sur le 106,6 de Radio Campus et on vient de s'écouter d'Eric Clapton, Laila.
Clapton, obligé de se surpasser donc dans Cream. Mais d'autant plus qu'en 67, sa popularité va être entamée par l'arrivée à Londres d'un certain Jimi Hendrix. Son style flamboyant qui va porter concurrence un peu au sien. Hendrix avouera plus tard qu'il était venu en Angleterre pour y rencontrer Clapton. Clapton continue malgré tout à être désigné par tous les sondages de magazines comme le meilleur guitariste du monde. Et le succès de Hendrix n'empêche pas Cream de vendre près de 15 millions de disques à travers le monde. Comme l'ambiance n'est pas toujours au beau fixe dans ce groupe-là, eh bien, au bout de 3 albums, ils vont se séparer. Hein. Le dernier album de Cream, Goodbye, c'est un disque concert qui apparaît dès 69, après la dissolution du groupe. Il contient entre autres la chanson Beige, première collaboration de Clapton avec son pote George Harrison. Des Beatles évidemment. Clapton va jouer ensuite le solo de While My Guitar Gently Weeps.
Oh bah alors là, je le dis même pas.
C'est la chanson de Harrison qui figure sur l'album blanc. Hein. Alors en janvier 69, voilà, le temps passe vite là aussi, même dans une chronologie. Harrison va quitter brièvement le groupe en plein milieu de l'enregistrement de Let It Be. John Lennon proposera même à Clapton de le remplacer. Bon, c'est ce qui s'est pas fait, mais pour anecdote, c'est quand même comme ça que ça s'est produit. Blind Faith, allez, un autre groupe, de Clapton, dès 69. Il fonde, lui, Blind Faith avec Steve Winwood, à qui s'ajoute Lex Cream, donc c'est Ginger Baker. On verra qu'il reviendra aussi souvent auprès de Clapton. La frénésie que déclenche chez les fans la création de ce nouveau groupe dépasse encore celle suscitée par la formation de Cream. Blind Faith apparaît pour la première fois en public devant une foule de 100 000 personnes à Hyde Park en 69. Bon, mais les musiciens, en particulier Clapton, ils semblent tendus en fait. Et beaucoup parmi le public sont déçus. Le groupe part ensuite en tournée américaine à guichet fermé, puis enregistre son unique album éponyme. Le disque est réalisé si rapidement que, hélas, sa phase 2 ne comporte que 2 chansons, dont une impro de 15 minutes. Voilà. Bon, 15 minutes, ça nous permet nous aussi d'aller boire un coup pendant l'enregistrement. Jamais vraiment à la hauteur des attentes de Clapton comme du public, Blind Faith est dissous. En fait, Clapton, c'est quand même quelqu'un d'exigeant. Hein. Il est donc Blind Faith est dissous, encore une fois, après moins d'un an d'existence. Clapton, décidé à rester un peu plus dans l'ombre, cherche des musiciens pour réaliser son rêve. Bien sûr, il avait le rêve de parcourir le monde, mais il aimerait aussi bosser en solo. Pendant l'expérience Blind Faith, Eric Clapton a fait la connaissance de l'année Ebony, un couple de musiciens, selon lui, simples, naturels, libres et pas du tout vaniteux. Donc là, c'est vraiment une aspiration de Clapton à un moment donné de sa vie, qui prennent simplement du plaisir à jouer. Tout le contraire des super groupes. Dont il est si fatigué, en fait, il décide de les rejoindre et les accompagne comme simple guitariste pour une tournée européenne. Au cours de ce voyage, Clapton s'ouvre à des influences musicales plus diverses, musique sud-américaine, ballades, chansons lentes, chansons d'amour, comme on vient de vous passer, theme country. Il va exploiter tout ça par la suite. La période de l'année Bonnie and Friends et de courte durée aussi, en septembre 69, Clapton est entré un peu plus dans le cercle très restreint, n'est-ce pas, des Beatles, en participant à un concert donné par John Lennon et Yoko Ono, donc de l'année Ebony. n'accepte pas que Clapton se diversifie, en fait. Et ça y est, c'est à nouveau une rupture pour Clapton. On change de groupe. On arrive en 70, peut-être qu'avant d'enchaîner sur 70, on peut...
Si tu veux, tu peux sortir ton American Express. La cocaïne arrive.
Très bien.
Marianne, je t'ai encore un peu de cocaïne sur ta narine gauche.
C'est la radio, ça se voit pas. En tout cas, on va revenir ici sur l'histoire de Leila, parce que je vais vous épargner toutes les différentes compositions de groupe. Effectivement, globalement, c'est que Clapton a du mal à se fixer, finalement. L'histoire de Leila commence en mars 64, lorsque George Harrison rencontre un jeune mannequin, Petty Boy, sur le tournage de A Hard Day's Night, le premier film des Beatles. C'est le coup de foudre et ils finissent par se fiancer. Clapton, lui, a fait la connaissance du couple pendant l'été 67. Harrison et lui sont rapidement devenus de grands amis, mais leur amitié ne vont pas se limiter aux goûts musicaux communs, je dirais. Très vite, Clapton, à son tour, va tomber amoureux de Patty. Un amour non partagé à l'époque, cette passion va devenir le thème de Leila, un prénom qui a été suggéré à Clapton par la lecture d'un livre, un livre persan, The Story of Layla.
Qu'on écoutait tout à l'heure et qui nous a
parlé cette minute. Et qui raconte l'amour passionné d'un homme pour une femme mariée. Ça tombe bien, non ? La suite de la carrière. Clapton, bon, il est particulièrement ravagé par la nouvelle de la mort de Hendrix. Il va commencer, bon là c'est un petit peu son déclin finalement, il va commencer à augmenter sérieusement sa consommation alcool, drogue. Bon, t'as bien fait de passer cocaïne à l'instant.
On a le nez en plein dedans.
On a le nez dedans. Bon, c'est... Et puis à cette époque-là, le morceau Layla que Stéphane nous a passé a été accueilli de façon assez mitigée quand même, hein, donc ça ne va rien arranger pour lui. Et pire encore, June Allman, donc un pote à lui, musicien, meurt brutalement d'un accident de moto juste avant le début de la tournée américaine. Donc il est franchement effondré, il passe toute la tournée dans un brouillard permanent de drogue, il en ressortira un album live que la critique juge étonnamment bon compte tenu de l'état du chanteur. Et les années suivantes, c'est une, ce qu'on pourrait appeler une véritable malédiction, puisqu'en fait, il va poursuivre le bassiste Carl Rader d'un ancien groupe, les Dominos, hein, va sombrer dans l'alcool aussi, et la drogue, bien sûr, qui finiront, hélas, par le tuer dès 80. Donc ça y est, Clapton perd encore quelqu'un de cher, Jim Gordon. Autre pote à lui, batteur de ce groupe formé par Clapton, lui va se contenter de tuer sa mère.
Il finit en tôle.
Il est placé en institution pour...
Il a un entourage vraiment destroyer à côté. Hein.
Donc c'est ce qu'il appelait lui-même ses années noires en fait. Hein. C'est un musicien qui va l'aider à sortir de cette spirale infernale, le guitariste des Who, qui veut fonder Blindface, un nouveau groupe. Il va pousser Clapton à en prendre la tête pour deux concerts au Rainbow Theatre de Londres en 73. Clapton hésite franchement, il accepte le challenge, il apparaît complètement diminué, bien sûr, avec un jeu de guitare un peu abîmé, avec ses trois années de dépendance quand même. Mais finalement, il en ressort bien vivant, le concert va produire l'effet escompté, hein. Clapton va suivre une cure de désintox et... Il va parvenir à surmonter sa dépendance à l'héroïne. Ah, c'était de l'héroïne, pas de la cocaïne.
C'était pas cocaïne.
Mais il va quand même rester alcoolodépendant pendant pas mal de temps, malgré ses succès cette fois, hein, ses succès discographiques qui vont s'enchaîner. On va s'en faire un autre peut-être.
Lay Down Sally.
Nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon, I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've
been trying all night long just to talk to you.
Alors, c'était Lay Down Sally. Tu peux continuer avec l'histoire du père Clapton.
Clapton, oui, bah, finalement, ses ennuis ne sont pas terminés. Bien sûr, il est libéré de l'héroïne. Il finit par épouser l'ex-petite amie de George Harrison. Les années 80, pour lui, vont pas être franchement bonnes. Sur le plan musical, en fait, mais je pense que ça, bon, en 76 il va déclencher une violente polémique et il va tenir des propos très étonnants à tendance franchement raciste lors d'un concert à Birmingham.
C'est pas bien,
pas bien de tôt. Bah, il va considérant que le Royaume-Uni était trop plein, quoi, en fait, il va appeler le public à voter pour le politicien d'extrême droite, afin d'éviter que le pays ne devienne une colonie noire. Donc ces propos qui font écho à ceux d'artistes comme David Bowie, ou Siouxsie de Siouxsie and the Banshees, la copine de Robert Smith, de la même époque, ça va provoquer un tollé général. Et effectivement... Il va revenir sur ses propos, oui, les propos, ce qu'il va en dire, c'est ben, « quand j'ai dit ça, j'étais complètement ivre. » Et comme tous les gens ivres, je racontais n'importe quoi. Quel crédit est-ce qu'on peut porter au propos d'un poivreau ? Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est pas ce que j'ai pu dire, mais c'est que j'ai été capable de jouer ensuite. Ouais, pourquoi pas. Les années 80, ça y est, sont bien démarrées. C'est pas...
Conclusion, on peut jouer la guitare bourrée.
Ouais, dans 80, c'est pas la meilleure période pour lui. Les quelques disques qu'il réalise sont obligés de se plier un peu aussi à une certaine mode synthétiseur boîte à rythme. Ça n'empêche pas qu'il va... Il va bosser avec Phil Collins. Et c'est avec Collins qu'il va sortir un grand succès. Il va partir ensuite en tournée 2 ans à côté de Collins. Et il va remporter pas mal de récompenses pour son travail. L'album Journeyman, enregistré lui 89, donc en fin de cette décennie, avec d'autres grands musiciens comme Harrison, qui est toujours là, Mick Jones, The Foreigner, hein, et Collins, va confirmer aux yeux du public la renaissance de cet artiste Clapton qui s'est enfin stabilisé est libéré. Ouais, après 90, c'est encore une fois deux tragédies qui vont gravement affecter Clapton. Il a eu un enfant, en fait, avec l'ex-femme de Harrison, et c'est un enfant qui va tomber, je pense, du 40e étage, un immeuble. Enfin bon, pour lui, c'était très dur, hein, effondré. Il va raconter un peu ses émotions dans une chanson qu'il a nommée « Tears in Heaven ». Donc décidément, Clapton est toujours touché. 91, il pousse son vieil ami, bah oui, parce qu'on est déjà quand même en 91, George Harrison, à reprendre la route. Et ça y est, les deux camarades commencent une tournée au Japon. Ils reprennent les vieux standards de Harrison. Une tournée européenne est prévue, mais annulée. Il n'empêche qu'un enregistrement public est disponible encore aujourd'hui, Live in Japan. C'est pas aussi le titre d'un album de Scorpion, Live in Japan ? Bon.
Mais tu peux continuer, on finira.
Et le véritable grand retour de Clapton sur la scène musicale 92, avec évidemment l'album Unplugged, où il reprend en public et acoustique des standards de blues et ses propres chansons. L'album, qui va contenir une version de Layla, bien sûr, deviendra un tube que l'on connaît et va rencontrer un immense succès cette fois. Franchement, le guitariste confirme son retour à ses premières racines musicales qu'il avait plus dès 94, From the Cradle, entièrement constitué de reprises de vieux morceaux de blues. Donc il s'enracine là vraiment, hein. Il est dans cette exigence musicale de départ. Cet album là qui fut le plus grand succès commercial de l'année 94, et bien Eric Clapton va démontrer sa maîtrise hors du commun de la guitare électrique et de tous les styles de blues. Bon, après, il va partager son temps avec des collaborations, Carlos Santana, bien sûr, B.B. King, qui remporte un succès immense et des albums électroniques. Il va sortir régulièrement de nouveaux albums, suivis de tournées à travers le monde. Donc là, on sent un Clapton qui a pris son rythme. 99, il a 54 ans. Il rencontre à Los Angeles une petite vendeuse. Et non, c'est pas la vendeuse des Pretenders dont tu me parlais la dernière fois.
Non, parce que
pas du tout.
Elle lui a quand même cassé la tête avec la cloche, hein.
Donc la jeune vendeuse, il va l'épouser un peu plus tard. En 2002, voilà, dans son propre village natal, à Ripley. Il revient aux origines. 2005, le couple a déjà 3 filles. L'album Reptile, qui date de 2001 déjà, mon Dieu, on est 2009. Bon, se rencontrer un très grand succès va quand même être bien accueilli. Clapton est suivi de toute façon par ses fans de début, hein. Il y chante et joue avec beaucoup de cette ancienne conviction qu'il a toujours portée finalement. Et c'est dans cet album que l'on retrouve la chanson Believe in Life.
Et je crois que ce sera le mot de la fin.
Ben, c'est pas rien, Believe in Life, croire en la vie.
Et je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis un bon week-end. Bonne fin de semaine aussi, Marie-Ange. Et à la semaine prochaine.
À
salut.
La semaine prochaine.
Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur Radio Campus. Et c'est l'histoire du rock.